Dans notre société, le mot « église » n'a pas bonne presse, et pour de bonnes raisons. En effet, dans la conscience populaire, le mot « chrétien » évoque autant l'amour du Christ que les croisades, l'inquisition et des exécutions cruelles. Pourtant, ce ne sont pas les persécutions sauvages qui ont freiné l'expansion du christianisme. Elles sont certes désagréables, mais les blessures qu'elles infligent sont physiques et donc temporaires. Tertullien, père de l'Église, a dit « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». La plus grande menace pour l'Église du Christ, c'est pas l'animosité des non-croyants, mais les faux enseignements. Les religions du monde ne présentent aucun danger pour le christianisme, par contre. Les imposteurs au sein de l'Église sont un poison spirituel et un danger mortel aux conséquences éternelles. Il n'est donc guère étonnant que dans l'Évangile selon Matthieu, on lit que Jésus a mis ses disciples en garde contre les apostats quand il leur a dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans l'exhortation de l'apôtre Paul, quand il adresse aux responsables de l'église d'Éphèse, il fait écho aux paroles du Seigneur, quand il dit « Je le sais, quand je serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau de vos propres rangs. Surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que, pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un, et parfois même avec larmes. » En fait, l'ensemble du Nouveau Testament exhorte les croyants à se prémunir contre la nature trompeuse des faux enseignements déguisés en vérité chrétienne. Ces mises en garde étaient, et sont toujours, à l'ordre du jour. En effet, vers la fin du 1er siècle, quand l'apôtre Jean rédige le livre de l'Apocalypse, seules 2 de ces 7 églises auxquelles Jésus s'adresse, Smyrne et Philadelphie, sont encore pleinement fidèles à l'enseignement du Seigneur. Les 5 autres églises, à un degré ou à un autre, sont tombées dans le piège de l'erreur doctrinale mise en place par des imposteurs, ce qui ne manque pas d'avoir des conséquences morales désastreuses. C'est avec sérénité que Jésus ordonne à ces églises de se repentir, de combattre les mensonges, de tenir ferme et d'expulser les apostats de leur sein. 25 ans plus tôt, quand Jude écrit sa lettre, et comme Paul et Pierre l'ont prophétisé, les enseignants de mensonges ont déjà pénétré dans les assemblées chrétiennes et la lutte pour défendre la vérité est engagée. C'est ce qui explique pourquoi Jude consacre la totalité de sa lettre à parler des hérésies, et s'il décrit leur caractère, c'est pour enseigner aux croyants comment les reconnaître. Il désire que ses lecteurs résistent fermement aux apostats qui menacent leur assemblée, mais aussi, et surtout, que ces imposteurs soient tous débusqués, dénoncés et expulsés. Et pour bien montrer combien la situation est grave, Jude utilise un langage violent, allant jusqu'à maudire les faux enseignants. Parce que l'épître de Jude est la dernière du Nouveau Testament, elle joue un peu le rôle de vestibule du château que Jean construit. quand il écrit l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament qui met en scène la destruction inévitable de tout ce qui s'oppose à Dieu. Tandis que Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, dans son ultime victoire, établit son royaume de vérité à tout jamais. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Jude écrit sa lettre dans les années 68 à 70 de notre ère, peu de temps après que Pierre a écrit sa seconde épître. Les deux lettres de Pierre et Jude sont étroitement liées, car elles contiennent plusieurs descriptions pratiquement identiques des imposteurs religieux et de leurs fausses doctrines. Il est aussi intéressant de noter que, quand Pierre fait allusion aux apostats, il utilise le temps du futur, tandis que Jude écrit au présent. Cette cohérence entre les deux lettres conduit à se demander si l'épître de Jude n'est pas la suite de deux Pierre, et si toutes deux ne sont pas adressées au même groupe de croyants juifs. Dans ce cas, ces derniers ont pu constater que les mises en garde prophétisées par Pierre se sont accomplies devant leurs yeux. Bien que l'identité exacte des enseignants de mensonge dont parle Jude est inconnue, tout porte à croire qu'il s'agit déjà d'une forme élémentaire de gnosticisme qui développe toute sa laideur au second siècle et qui, dans les domaines de la doctrine et de la morale, constitue la principale hérésie que les responsables d'assemblées chrétiennes ont à combattre. Malgré la dureté des propos de Jude à l'encontre des apostats, ceux-ci n'enseignent pas encore d'une manière systématique les deux croyances fondamentales qui, plus tard, détruiront beaucoup d'assemblées chrétiennes et qui sont l'obtention du salut au moyen d'une connaissance secrète et deuxièmement, l'opposition entre deux êtres appelés Dieu, l'un qui est bon et l'autre qui est malveillant et qui a créé le monde matériel. Les imposteurs auxquels Jude fait allusion sont dans le transé de la ligne gnostique du second siècle. Chez ces précurseurs, on trouve, sous une forme encore peu développée, cinq caractéristiques qui composeront plus tard le gnosticisme. Je les cite. Importance de la connaissance sans lien avec une conduite morale. Arrogance à l'encontre des responsables d'église qui sont considérés comme non éclairés. Grand intérêt pour les anges et les esprits, création de division dans les églises pour s'imposer, c'est-à-dire diviser pour régner. Immoralité grossière, sans la moindre honte. Quant aux faux enseignants, contre lesquels Jude s'élève, il les accuse de nier que Jésus-Christ soit le Seigneur du ciel et de la terre. Il les accuse de mener une vie licencieuse de péché, de se rebeller contre l'autorité, de se laisser aller à leurs penchants mauvais en satisfaisant leurs convoitises, de se préoccuper de faire de l'argent, de causer des divisions dans les églises, de se plaindre et de se vanter. Ces imposteurs religieux ne sont peut-être que l'avant-garde gnostique au niveau de l'enseignement doctrinal, mais dans le domaine moral, ils sont déjà tout aussi perverses que les vrais gnostiques qui les suivront au second siècle. Pour cette raison, dans sa courte lettre, Jude ne se concentre pas tant sur le faux enseignement des apostats que sur le style de vie, et il n'est pas tendre avec eux puisqu'il utilise 6 fois le mot « impie » et ses dérivés. Une fois, au verset 15, 4 fois au verset 18, 1 fois. Mais ces mots sont traduits différemment selon les versions. La dénonciation du caractère dépravé de ces hommes suffit pour qu'on les reconnaisse comme des imposteurs religieux. Car dans l'Évangile selon Matthieu, on lit que Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». En mettant à nu la vie corrompue des apostats, Jude n'a plus besoin de réfuter leurs croyances, car aucun croyant authentique ne suivra l'enseignement d'un homme perverse, rebelle, égocentrique et arrogant. L'image que donne Jude de ces imposteurs religieux révèle l'étendue de leurs vices. Comme des prédicateurs, ils se glissent furtivement et sans faire de vagues parmi le peuple de Dieu, qui souvent, il faut bien le dire, n'est pas très méfiant. Aujourd'hui, c'est encore pire. La philosophie pernicieuse, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, a malheureusement conquis beaucoup de croyants. Une fois installés et acceptés dans l'Église, ces bêtes de proie s'emploient à faire un travail de destruction. Jude dit que ces hommes travestissent en débauche la grâce de notre Dieu. Au lieu de rejeter les passions des gens de ce monde, comme l'écrit Paul à Tite, ils enseignent de les épouser coram. Ils sont tellement corrompus que Jude les compare aux anges déchus, aux hommes pervers et violents, ces villes maudites de Sodome et Gomorre, à Caïn, qui fut le premier meurtrier de l'histoire humaine, à Balaam, le prophète rapace, et aux rebelles juifs dirigés par Corée. Toutes ces histoires et ces personnages se trouvent dans les pages de l'Ancien Testament. Ces apostats dépassent les limites, car dans leur arrogance, ils vont même jusqu'à insulter les êtres glorieux du ciel. Ce que même le puissant archange Michel ne s'est pas permis. Jude écrit la corruption des apostats au moyen d'un langage dynamique et par des métaphores choquantes. C'est ainsi qu'il écrit que leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont deux fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité et les ténèbres. Il est quelque peu ironique de constater que Jude, l'homme qui condamne avec la plus grande véhémence toutes les hérésies présentes et à venir, porte le même nom que le plus notoire de tous les infidèles, le traître Judas Iscariote. C'est aussi pour cette raison que les traductions françaises donnent le nom de Jude plutôt que Judas à l'auteur de cette lettre, ces deux noms étant deux formes de l'hébreu, Judas. Je commence maintenant à lire la lettre de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ, est frère de Jacques. Jude ou Judas est un nom courant dans le Nouveau Testament. Deux des disciples du Seigneur Jésus s'appellent Judas et Judas Iscariote, et Judas, fils de Jacques. C'est un certain Judas de Damas que peu après sa conversion, l'apôtre Paul rencontre Ananias, un homme qui lui permet d'entrer dans les cercles chrétiens. Un autre Jude, aussi appelé Barnabas, est l'un des responsables de l'Église primitive. Il va avec Paul. Barnabas et Silas portaient une lettre de la part du Concile de Jérusalem aux croyants d'Antioche. Il y a aussi Judas de Galilée, fondateur du parti des Zélotes qui se soulève contre les Romains. Cependant, Jude, qui écrit la lettre, qui porte son nom, ne correspond à aucun de ces hommes, car il est le frère de Jacques qui préside le concile de Jérusalem. Et tous deux sont les demi-frères de Jésus. La situation de Jude est similaire à celle de son frère. Bien qu'il ne soit pas apôtre, il n'en a pas douté. Sa situation familiale par rapport à Jacques et Jésus lui confère une position de prestige et d'autorité dans l'Église primitive qui lui vaut d'être écouté. C'est sans doute l'une des raisons pour laquelle Dieu le choisit pour écrire une lettre inspirée qui met les croyants en garde contre les dangers des faux frères. Jude se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Il fait, en fait, il utilise le mot grec « doulos » qui désigne un esclave ordinaire. Dans le monde gréco-romain, l'esclavage est tellement répandu que la moitié de la population de l'Empire est asservie à l'autre moitié. L'esclave ne possède aucun droit parce qu'il est la propriété de quelqu'un, comme un outil ou du bétail, pas mieux, ce qui fait qu'il doit une soumission totale et absolue à son maître, sous peine de châtiment pouvant aller jusqu'à la mort. Eh bien, c'est ainsi que Jude conçoit sa position et sa relation par rapport à Jésus, son Seigneur. Cette identification de Jude à un esclave est bien choisie, car elle établit un contraste bien marqué entre lui et les enseignants de mensonges. Alors que ces derniers méprisent Dieu et rejettent le Christ Seigneur, Jude est son esclave reconnaissant, et pourtant, durant au moins une partie du ministère de Jésus, ses frères ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, et les membres de sa famille s'opposent même à lui. On voit donc qu'il est tout à fait possible de grandir en compagnie de Jésus, sans reconnaître qui il est vraiment. Le changement que subissent les frères de Jésus, et même sa mère, est résumé par l'apôtre Paul, quand dans sa seconde épître aux Corinthiens, il écrit « Autrefois, nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. » Jacques et Jude reconnaissent désormais leur demi-frère Jésus comme le Seigneur de gloire, et leur relation familiale avec lui comme sans valeur particulière. Il a fallu que ces deux hommes viennent au Christ en tant que pécheurs perdus, comme doit le faire n'importe quel autre être humain. Très tôt dans l'Église des premiers siècles, on commence à vénérer les membres de la famille humaine de Jésus comme s'ils étaient des sacro-saints qui peuvent accorder des grâces particulières. Mais c'est de la pure superstition, car ils sont comme vous et moi, et nous devons tous nous humilier devant le Seigneur de gloire pour recevoir le pardon de nos péchés. Marie, la mère de Jésus, est certes une personne remarquable par son humilité. Il est bien vrai que sa cousine Élisabeth lui dit « Béni es-tu entre les femmes ». Mais notez bien qu'elle a dit « entre les femmes » et pas « au-dessus » ou « plus que » comme le traduisent certaines versions. De plus, dans ce qu'on appelle le Magnificat, et que nous rapporte Luc, Marie appelle Dieu « mon sauveur ». Le titre dégradant d'esclave de l'apôtre Paul se donne régulièrement et que Jude s'approprie, montre bien que l'un comme l'autre ont compris la signification de la mort, de la résurrection du Christ et qu'ils l'ont accepté comme sauveur. C'est donc en toute humilité que Jude choisit de pendre le titre de « esclave de Jésus-Christ » plutôt que d'épater les destinataires de sa lettre en leur rappelant qu'il n'est pas n'importe qui, mais le demi-frère du Seigneur. Cependant, il y être le frère de Jacques, que tous les croyants connaissent parce qu'il est le chef de l'Église de Jérusalem. Jude est le seul auteur sacré à se présenter en évoquant un lien de parenté avec un autre personnage du Nouveau Testament, mais c'est uniquement pour que ses lecteurs sachent à qui ils ont affaire. Non seulement le style de Jude est très animé, mais il affectionne aussi le rythme produit par des triades. Il y en a, paraît-il, 18 dans cette petite lettre. Je vais donner quelques exemples. Les plus remarquables se trouvent dans l'introduction. Dans le premier verset, il y a d'une part Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et d'autre part, il salue ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Avec la première triade, Jude, serviteur et frère, il se présente. Avec la seconde, appelée « aimer et garder », il décrit ses destinataires. Dans la salutation du verset 2, Jude utilise la triade « bonté, paix, amour » quand il écrit « Que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés ». Au verset 4, il décrit les apostats en portant contre eux trois accusations qui sont « Ils n'ont aucun respect pour Dieu », travestissant en débauche la grâce de notre Dieu et reniant Jésus-Christ. Plus loin, Jude cite une triade d'apostats qui ont été jugés dans le passé. Le peuple tiré de l'esclavage en Égypte, les anges qui ont abandonné leur demeure et Sodome et Gomorre et les villes voisines. Ensuite, il revient aux hérétiques actuels et leur fait trois reproches. Ils souillent leur propre corps, rejettent l'autorité du Seigneur et insultent les êtres glorieux du ciel. Puis il les compare à une triade de renégats notoires de l'Ancien Testament qui sont Caïn, Balaam et Corée. Ces gens que Jude condamne propagent une fausse doctrine et ont des comportements moraux déplorables. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont imbuvables, infréquentables et représentent un poison mortel pour les assemblées qu'ils ont infiltrées. Pourtant, même le pire des impies a une âme pour laquelle Jésus a donné sa vie. Mais s'il refuse de se repentir et de s'humilier devant Dieu, il n'y a pas d'autre solution que de l'expulser de l'Église.